Le verset 25 à 35. Luc nous dit ceci. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration, ou plutôt dans l'émerveillement de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. » Ou bien cet enfant est destiné et ordonné à la chute et au relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Sans doute une allusion à la tristesse de Marie devant la croix où elle voit son fils crucifié. Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées ou dévoilées. Siméon, nous avons donc ce récit dans l'évangile de Luc de cet homme et de la partie du rôle qu'il joue dans la naissance du Sauveur pour de bonnes raisons. Et nous voulons comprendre pourquoi il a été placé là, pourquoi Dieu l'a mis à part pour ce jour, et qu'est-ce qu'il faisait là, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce que nous devons comprendre par tout cela. Nous allons voir la personne de Siméon et la tâche spéciale de Siméon, et ensuite le message de Siméon. La personne de Siméon. Nous lisons dans le verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. D'abord, sa singularité. Ce n'était pas des temps formidables, spirituellement parlant, en Israël. Mais il y avait un homme du nom de Siméon et il était juste et pieux. Il n'était pas le seul. Nous voyons une femme juste après, le même jour, dans le temple, Anne, qui est prophétesse. Mais ils étaient peu. Nous voyons que quand le Seigneur va arriver, il va avoir tous les problèmes du monde avec les responsables religieux et ensuite avec la masse du peuple de Dieu, Israël, qui vont crier, en fin de compte, « Crucifiez-le ». Mais dans des temps ténébreux, le Dieu vivant garde toujours pour lui un témoignage sur terre. Toujours. Et voilà un homme qui a été capable de vivre une vie juste et pieuse dans les temps les plus difficiles. Parfois nous disons « Ah, c'est pas possible aujourd'hui ». Regardez, Siméon. Mais son caractère. Nous apprenons de la part de Luc qu'il était juste et pieux. Nous voyons, juste par les petits détails, la manière dont il agit ce jour. Nous n'avons qu'une fenêtre sur un jour de sa vie. Mais nous voyons et nous obtenons cette impression que cet homme était un homme qui vivait proche de Dieu, qui était intime avec Dieu. Un homme juste, ça parle de sa droiture morale, surtout avec les autres. Un homme pieux, ça parle avec cette crainte de Dieu et cette réalité qu'il avait avec Dieu. Et nous voyons qu'il était aussi un homme aimant. Vous l'avez vu? Dans le verset 28, nous lisons qu'il reçoit le bébé dans ses bras et il bénit Dieu. C'est un homme qui aurait dû probablement mourir déjà. Parce qu'on nous dit qu'il attendait sa mort et il dit ce jour-là, maintenant tu peux me laisser partir en paix. Et peut-être que vous avez, comme moi, rencontré des gens qui sont très âgés et qui disent, année après année, vers ces âges de 85, de 90 ans, pourquoi est-ce que le Seigneur ne me laisse pas partir? Il n'y a plus rien pour moi ici. Mais quoi qu'il en soit, Siméon était un homme qui était un vieux plein d'amour qui prend le bébé. Et puis dans le verset 34, nous lisons que Simon bénit le couple, Simon les bénit et dit à Marie certaines choses. Il bénit l'enfant, il bénit le couple, il prend l'enfant dans son bras. C'est un homme vraiment attachant, mais un homme de Dieu. Mais pour le comprendre, il faut aller un peu plus loin, parce que le principe central de sa vie n'était pas tout cela, c'était autre chose. Et dans le verset 25, nous le lisons. Luc nous signale une chose qui est au fond, qui est le fond de Siméon et de sa vie avec le Seigneur. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël. C'était un homme qui était dans l'attente de quelque chose, dans l'expectatif. C'est ça qui le caractérisait, c'était ça son orientation, c'était ça son espérance. Il était tourné, si on pouvait dire que sa face ou son cœur est tourné dans une direction, c'est tourné vers ceci, vers la consolation d'Israël. Maintenant, il faut que vous compreniez cela. Et pour cela, si vous voulez visiter avec moi rapidement Isaïe chapitre 12, nous pouvons lire l'explication de ce que les Juifs voulaient dire par la consolation d'Israël. Dieu ne nous permet pas de mettre n'importe quel sens là-dessus. Nous sommes obligés de comprendre cela. C'était un terme qui voulait dire quelque chose pour n'importe quel Juif à l'époque. Et nous le voyons beaucoup dans les prophètes, beaucoup en Isaïe, et nous le voyons ici dans le chapitre 12 d'Isaïe, et les versets 1 à 4. Tu diras en ce jour, quel jour? C'est le jour de la venue du Messie. Donc la consolation d'Israël, c'est le Messie qui vient consoler le peuple. Tu diras en ce jour, je te célèbre, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détourné et tu m'as consolé. Voici le Dieu de mon salut. Et qu'est-ce que Siméon dit ce jour-là quand il prend le bébé? Mes yeux ont vu ton salut. Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur. Car l'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources de salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Et c'est ce que Siméon fait. Il fait connaître et il parle aussi des peuples. Il dit que ce bébé va être une lumière pour les nations. Donc, Siméon est quelqu'un qui attend une chose plus que tout autre, c'est le pardon des péchés. Aujourd'hui, nous entendons l'évangile présenté sous beaucoup de thématiques. Viens à Jésus et tu seras heureux, viens à Jésus et il te donnera ceci ou cela. Mais le message de l'évangile, chers amis, le vrai message de l'évangile, n'a pas tellement, au moins au début, à faire avec tout cela. L'évangile est au sujet de la question primordiale à côté de laquelle toute autre question dans votre vie est une note de bas de page. Et cette question, nous l'avons lue. Tu as été irrité contre moi. Et ta colère s'est détournée. Siméon, c'est un homme aux yeux ouverts de la seule chose qui va vraiment être grand dans ta vie. Parfois, nous disons, il n'y a rien de grand dans ta vie. Tu as quelque chose de très, 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 très grand dans ta vie, ça vient. Tu vas rendre compte au Dieu vivant qui t'a fait pour lui-même et qui sera loué de toutes les nations. Ah, ce sera le grand jour. Et cette consolation du pardon des péchés, quand celui qui peut effectuer le pardon des péchés vient, la consolation vient. Nous voyons donc que c'est quelqu'un qui vit dans l'expectative. Parfois, on voit des vieux qui font pitié, n'est-ce pas? Ils n'ont plus de métier. Ils n'ont plus d'occupation, leurs amis sont décédés, ils n'ont plus de contact social vraiment. Ils sont tristes, tristes, tristes. Comme si la vie est quelque chose qui s'estompe avec l'âge, qui perd sa saveur. Mais étrangement, Siméon est tout le contraire. Nous voyons un homme, on voudrait être comme lui. Il vit dans l'attente. Il loue, il bénit, il est prêt à partir, mais dans la joie. Mes yeux ont vu ton salut. Il vit divinement averti, il va au temple au bon moment, il joue un rôle important dans le témoignage au Christ. C'est formidable, cet homme. Et tout cela, c'est à cause de la puissance directrice de sa vie qui est le Saint-Esprit. Nous avons parlé de sa singularité, de son caractère, du principe central de sa vie, consolation, mais la puissance directrice, on l'a aussi. Le Saint-Esprit était sur lui. En d'autres termes, ne pensez pas que on devient comme ça par nos forces, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous êtes devenu par vos forces à vous? Vous êtes devenu proche de Dieu? Vous avez vécu comme ça, en contact avec les réalités ultimes, attendant la consolation, le pardon de Dieu et y croyant lorsque ça vient? Ou bien est-ce que vous êtes confiné dans des ténèbres, loin de tout cela? Mais bien sûr, sans l'Esprit Saint qui peut nous ouvrir, voilà. Nous sommes laissés à nous-mêmes, et nous-mêmes, c'est justement le problème. Bien, voilà pour la personne de Siméon. Mais nous voulons comprendre pourquoi il a cette tâche spéciale. Et quelle est la tâche? Nous le lisons dans le verset 26 à 28. Et ce que Luc nous dit, c'est qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Est-ce qu'il savait ce jour-là que ce serait le jour? Il vient poussé par le Saint-Esprit. Il savait qu'il devait aller au temple. Est-ce que Dieu lui a dit textuellement? Ça y est, c'est le jour. Tu vas voir mon salut. Tu vas voir le Messie. Ou bien est-ce qu'il avait juste un sens que là, je dois aller au temple. Et il se demandait même en lui-même, est-ce que c'est... Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il a vu le bébé dans les bras de Marie, le Saint-Esprit lui a dit, c'est celui-là. Parce qu'il parle avec une complète certitude. C'est vraiment très fort, n'est-ce pas? Il prend le bébé, il dit, Seigneur, laisse-moi mourir maintenant. Je peux, ce que je vis là avec ce bébé, c'est tellement grand cette réalité que tu peux me laisser mourir. Je peux en mourir de joie. Car mes yeux ont vu ton salut. Il ne dit pas, bah, c'est peut-être lui, j'espère, on m'a dit que, donc peut-être. Il sait. Et il a raison. Parce que Dieu l'avertit. Dieu lui donne la place d'un témoin certain. C'est pas pour lui-même. C'est pas pour lui-même. C'est pour Marie. C'est pour Joseph. C'est pour ceux qui sont au temple. Et c'est pour nous. Les anges avaient déjà témoigné à qui? Aux bergers. Donc rappelez-vous, les bergers sont dans le premier siècle parmi les personnes les moins religieuses en Israël. Ils n'ont même pas le droit de témoigner dans un procès parce qu'ils ont la réputation d'être tellement malhonnêtes. D'accord? De par leur métier, ils ne sont pas souvent au temple. Enfin, ce qu'on nous dit des bergers de l'époque, c'est étonnant que ce sont les anges qui viennent vers ces pauvres personnes pécheresses. Mais au temple, là où on est religieux, c'est pas les anges, c'est un vieux gourmet qui vient. Et les voies de Dieu sont vraiment complètement inversées. Les hautains sont humiliés et les pécheurs sont relevés. Dans la manière où Dieu témoigne. Mais en tout cas, ce jour-là, le temple doit aussi savoir et entendre. Le temple, les prêtres, les sacrificateurs doivent entendre. Et Dieu a choisi la bouche de cet homme. Donc, sa tâche spéciale, c'est de témoigner de l'identité de ce bébé, parce que personne ne va savoir le regarder, n'est-ce pas? Mais lui, averti par l'esprit, il dit, voici ce bébé, 8 jours, il a 8 jours, il ne ressemble à rien, n'est-ce pas? Il dit, c'est le salut du monde. Mes yeux ont vu ton le salut de Dieu. Lumière pour les nations. Et gloire pour le peuple d'Israël. Et il prédit, c'est une prophétie, vous avez remarqué, il dit, ce bébé va être la lumière des nations, c'est-à-dire à cause de lui, les nations païennes qui adorent toutes, sans exception, des faux dieux qu'ils ont inventés, vont être illuminés et voir et comprendre qui est le vrai Dieu et comment est-il dans sa grâce, dans sa sainteté, à cause de ce bébé et rien d'autre. Waouh! Pour dire ça, il faut être sûr. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Dans toutes les nations où on n'adore plus des statues de fer et de bois, qui vous disent de brûler votre femme, de brûler une femme sur le cercueil de son mari, vivant, la brûler vivante, comme dit l'hindouisme. Et lorsque les missionnaires chrétiens sont arrivés en Inde, ils ont dû lutter pendant longtemps pour que le gouvernement de l'Inde arrête l'hindouisme dans une de ses pratiques clés. Ou bien, choisissez des autres religions où il y a presque toujours de la prostitution au temple, où La prostitution fait partie du culte, n'est-ce pas? Dans les religions païennes. Et les religions animistes que j'ai vues en Afrique où on se coupe et on se scarifie et toutes sortes de pratiques abominables, on sacrifie ses enfants. Parfois, j'ai été dans un village où on m'a montré une case qui était enfermée par une clôture, presque jamais le cas en Afrique qu'une maison soit enfermée, clôturée. Mais c'est parce que la personne qui habitait dans cette case n'avait pas le droit d'en sortir pendant toute sa vie parce qu'il était un sacrifice humain au dieu de ce village. Et on lui a porté sa nourriture. Et il y avait des os humains dans cette case de précédents sacrifices humains qui avaient vécu et qui sont morts dans cette case. Voilà les religions du monde. Mais partout où le christianisme est passé, les hommes ont eu une lumière que Dieu n'est pas comme ça. Je vous dis tout simplement la vérité. Ce qui a balayé le paganisme de l'Europe, c'est quoi? C'est ce bébé. Une lumière dans son visage, c'est-à-dire dans sa vie, dans ses paroles, dans le récit du Christ, dans le Nouveau Testament, les hommes en Europe. Les hommes en Amérique du Sud, les hommes en Asie, les hommes partout dans le monde ont vu clair sur Dieu. Nous avions un musulman ici dans le culte il y a quelques jours et il est venu à moi après le culte et il m'a dit que quelque chose que j'avais mentionné dans le culte au sujet d'une de l'islam, sans dire que c'était l'islam, il a dit, c'est exact. Et je ne sais pas comment j'ai pu croire qu'une telle chose soit vraie. Mais c'est le Christ qui m'a illuminé, qui m'a délivré de ces pensées tellement fausses. Donc, Siméon a dit une prophétie qui s'est réalisée. Je le dis parce que parfois les gens ont envie d'avoir une preuve du christianisme. Comment est-ce que je peux savoir si c'est vrai? Ben, je vous donne. Je vous donne. Vous dites-moi si l'histoire a prouvé Siméon vrai ou pas. Vous comprenez bien que Siméon aurait pu dire ça et ça ne se réalise pas. Jésus n'est pas devenu une lumière pour les nations. Et il dit qu'il est devenu la gloire d'Israël. Et là, c'est une référence au fait que, à cause de lui et par lui, tous les yeux vont se tourner vers Israël, vers la croix de Jérusalem pour le salut. Vous savez que la différence entre le christianisme et toute autre foi inventée par les hommes réside en partie dans cela. C'est que si vous voulez faire la part des choses et arriver à une certitude, comprenez-moi bien que si Dieu est vraiment là, il est le Dieu qui sait l'avenir, n'est-ce pas? Il sait ce qu'il va faire et il peut le faire et il le fait. Savez-vous que la seule foi dans le monde qui est une foi prophétique, c'est-à-dire où le livre sacré est constamment en train de prédire des choses qui vont arriver, c'est la Bible. Il n'y a pas de prophétie dans le Coran. Il n'y a aucune prophétie dans le Coran. Je vous ai dit déjà qu'il y a une semblance, parfois les musulmans revendiquent une prophétie, c'est que Mohammed, après avoir été battu dans la ville de la Mecque, a dit qu'il allait revenir gagner un jour. Mais ça, c'est pas une prophétie. Ça, c'est ce que tout joueur basket dit lorsqu'il a été battu. Il a dit, lorsqu'on jouera le match retour, on va gagner. Ça, c'est pas une prophétie. Mais il n'y a pas de prophétie dans le Coran, dans les livres sacrés d'hindouisme. Mais voilà ce que Dieu dit. Il dit lui-même que c'est la manière de montrer, de savoir avec certitude que c'est la foi chrétienne qui est la vérité et pas les autres. Regardez, écoutez bien. Ésaïe 46, 9. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et là, dans le contexte, vous pouvez le regarder, mais il dit que est-ce que vos dieux peuvent dire ce qui va arriver? Il dit, moi seul, je suis Dieu, personne n'est comme moi, je le prouve en vous disant longtemps d'avance ce qui va arriver. Et donc, dans cette parole de Simeon, nous avons une prophétie de ce que le bébé, invraisemblable à le dire, mais le bébé va devenir la clé de l'histoire du monde. C'est vrai. C'est grand, c'est immense, c'est incroyable. C'est vrai. Maintenant, nous allons regarder, pour finir, le message de Simeon au sujet de Jésus. Et la première chose qui doit nous frapper, c'est simplement que c'est un message qui émerveille. Nous voyons dans le verset 33, son père et sa mère étaient dans l'admiration. Il vaut mieux dire quelque chose de plus fort que ça pour traduire ce mot, dans l'émerveillement, dans l'étonnement. Donc, Simeon dit quelque chose qui donne cette réaction. Est-ce que c'est possible? Mes yeux ont vu ton salut, lumière pour les nations, gloire pour le peuple d'Israël, et il est destiné à être la raison d'une contradiction. Il va provoquer Jésus-Christ d'une contradiction, parce que les hommes ne vont pas aimer ce qu'il est et ce qu'il dit. Et il va être la raison pour la chute de beaucoup de personnes humaines, et le relèvement de beaucoup de personnes humaines. Et tout cela s'est passé exactement comme cela. Donc, imaginez-vous à la place des parents ou des gens au temple, est-ce possible tout cela? Est-ce que Dieu vient parmi les hommes comme cela? Est-ce que Isaïe a raison? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant qui s'est contracté dans le corps d'un bébé, pour ainsi dire, tout en restant partout dans sa divinité. Oui, bien sûr. C'est un message qui émerveille. C'est là une pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. C'est là qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et là, ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent être Dieu. Dans quel sens? Dans le sens que c'est moi qui décide ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. C'est ce qui me semble possible que j'accepte. Et ce que ma raison ne... Non, être émerveillé, étonné, non, je ne permets pas. Que Dieu puisse faire ça, s'incarner, devenir homme, vraiment vivre ici, non. Donc, les hommes, dans leur péché, décident de se mettre à la place de Dieu. Chers amis, êtes-vous capables de dire ce que Dieu... Le Dieu créateur, transcendant, peut faire. Pouvez-vous vraiment me dire que Dieu ne peut pas faire quelque chose qui vous dépasse complètement? Mais bien sûr que non. Les parents de Jésus sont dépassés par ce que dit Simeon. Ils sont dans l'étonnement. Ils n'arrivent pas à assimiler cela. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons toujours vivre dans cela, n'est-ce pas? Il y aura toujours des choses que ça me dépasse. Comment est-ce possible? Et c'est un des endroits le plus important où le chrétien doit se repentir. et doit s'incliner parce qu'il ne va jamais comprendre. Il ne va jamais pouvoir cerner ça et dire « oui, mais bien sûr ». On ne peut pas. Quand Dieu agit, on est pris à partie. Notre raison limitée rencontre ses limites. Deuxièmement, c'est l'annonce, le message de Simeon, c'est un message qui émerveille, mais c'est aussi l'annonce d'un sauveur. Nous lisons dans le verset 31-32. Je commence avec 30. « Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. » C'est-à-dire, ça ne s'est pas passé dans un coin. Le salut est quelque chose que Dieu a préparé devant tous les peuples, devant les nations, dans l'histoire. Il a préparé ça. Par les prophètes, par Israël, par l'exode d'Israël, par la conquête d'Israël, en plaçant un pays contrôlé et protégé par Dieu dans ce petit bled de Palestine et tout ce que Dieu a fait. Dieu a préparé le salut devant nous tous. L'histoire d'Israël est tout simplement incroyable. C'est pas possible. Un pays qui pris en captivité en Babylone et qui revient. Normalement, lorsqu'un pays est dévasté et le peuple pris en captivité, ce peuple finit. Ce peuple finit par se marier dans la terre du peuple qui les a capturés. C'est la fin de l'histoire de cette nation. Mais Israël est renvoyé dans la Palestine encore par Cyrus, l'empereur médo-perse. En tout cas, Dieu a préparé le salut, et c'est bien un salut. Alors, Simeon va nous expliquer comment Jésus nous sauve, il va nous expliquer une partie, quand il va dire... Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Alors rapidement, parce que je suis allé un peu plus longtemps que je ne voulais, mais je veux quand même vous parler de cette lumière. Jésus-Christ est pour vous une lumière et vous, il vous faut à tout prix cette lumière pour être sauvé. Alors les ténèbres, c'est quoi? Vous êtes mis dans une pièce qui est complètement enfermée. Aucune lumière. Et lorsque vous arrivez dedans, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie d'abord que vous ne voyez rien, même si vos yeux marchent. Vous ne voyez aucun objet. Vous ne voyez pas. Et puisque vous ne voyez pas, ça veut dire que certaines autres conséquences arrivent. Par exemple, Vous allez dans le mauvais sens, vous pensez que vous allez vers la porte et vous allez dans le sens contraire, vous butez contre quelque chose et vous n'arrivez pas à trouver des choses utiles, ce qu'il vous faut comme la clé pour la porte. Alors, lorsque nous sommes éloignés de Dieu, la Bible dit que des ténèbres sont descendues sur notre âme, votre manière de penser, de raisonner, d'évaluer et d'aimer, a été enténébré. Ça veut dire que vous prenez le mauvais chemin parce que vous êtes dans les ténèbres. Moralement, spirituellement, vous avez tendance de prendre le mauvais chemin et pas le bon parce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas la vérité. Deuxièmement, vous butez contre des choses. C'est-à-dire, en vivant comme vous vivez, vous êtes en train de vous détruire. Parce que vous marchez dans les ténèbres. Regardez la société occidentale qui est en train de se détruire, de se décomposer devant nos yeux. Pourquoi? Parce que les hommes sont dans les ténèbres. Ils ne savent pas qui ils sont, pourquoi ils existent, quelles sont les réalités ultimes. Ils pensent tout le contraire dans tous ces domaines. Ils pensent que nous venons de nulle part. C'est un accident, nous allons nulle part, il n'y a pas de valeur, et tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'ils réfléchissent, toute leur perspective sur la vie est complètement l'inverse de la réalité. Voilà les ténèbres. Et ce qu'il nous faut, n'est-ce pas, c'est la lumière. Et la lumière dans tous deux sens, une lumière objective et une lumière intérieure. Et le Christ va donner les deux. Lorsqu'il va venir, nous pouvons voir d'une manière claire et palpable qui est Dieu, comment est-il, le vrai Dieu. Parce que là, il est là dans une forme humaine. Là, je peux comprendre comment est Dieu. Il n'est pas comme ce que j'ai inventé dans ma tête. Il est complètement autre. Et la personne de Jésus, si seulement vous lisez l'Évangile, va complètement détruire vos idées sur Dieu, mais vous illuminer sur la vraie réalité. Et il dit que Jésus va être une source de gloire pour Israël. Maintenant, il faut comprendre que là, il dit lumière pour les nations, gloire pour le peuple d'Israël. Mais dans la manière hébraïque de parler, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas donner de la lumière à certains juifs, ni de la gloire aux nations. D'accord? Il le dit comme ça parce que les nations ont plus besoin de lumière parce qu'ils n'ont aucune idée de qui est Dieu. Et la gloire, c'est ce qui a été promis à Israël. La gloire, c'est la présence de Dieu. C'est quand Dieu est là. Et vous savez que le mot gloire, doxa en grec, signifie probablement, nous dit-il, lourd ou poids, pesanteur. Et nous disons que quand quelqu'un est glorieux, il a du poids, celui-là, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est léger, c'est quelqu'un qui n'est pas glorieux. Ok, c'est ça un peu. Et aussi, il y a un sens de brillance, de ce qui est lumineux et bienfaisant. Et lorsque Simeon dit que ce petit bébé va devenir pour les nations et veut devenir pour vous une source de gloire, ça signifie que notre problème de péché, c'est que nous, en se détournant de Dieu, nous nous sommes condamnés et confinés dans la trivialité. Il n'y a rien de lourd dans notre vie. Tout est léger, n'est-ce pas? Regardez le monde, regardez la société non croyante. Il n'y a rien d'éternel, d'important, de glorieux dans leur vie. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des tas de films, des tas de livres, où on fait quoi? On raconte des choses qui sont pas possibles, le Hobbit et tout le reste, n'est-ce pas? Des choses qui sont glorieuses, n'est-ce pas? Des Superman, des Batman, des... Maintenant, ça revient, tous ces héros, parce que c'est glorieux. Ces gens ont du poids. Pourquoi est-ce que nous aimons? Pourquoi est-ce que nous fabriquons constamment des histoires de gloire? Parce que nous n'avons pas été créés pour vivre sans raison, sans importance, sans quelque chose de lourd, d'important, de glorieux. Dieu nous a créés dans son image pour lui-même. Et nous avons soif de gloire, n'est-ce pas? Est-ce que vous vivez et il n'y a aucune raison d'être, il n'y a rien d'important et ça vous suffit? Ah, vous ne pouvez pas esquiver. Être humain, c'est vouloir quelque chose de glorieux. Sauf que dans le péché, nous essayons de faire en sorte que ça vienne de nous-mêmes, n'est-ce pas? La gloire vient de nous-mêmes. Mandela, on nous raconte, malgré toute sa grandeur d'âme humaniste, nous disait que nous devons chercher au-dedans. Vous devez chercher ce qui est au-dedans. Et ça, c'est le message des religions orientales et... C'est le message de Hollywood. Tous les films qui sont « Cherchez dedans votre grandeur, la réponse est en vous-même. » Et la Bible dit « Non, pas du tout. » La gloire, ce qui est lourd et important, c'est Dieu. Depuis toujours et pour toujours, c'est Dieu seul qui est glorieux. C'est Dieu seul qui est glorieux. Et c'est seulement en revenant à Dieu, ou quand Dieu revient à vous et qu'il vous donne sa présence, son appel, il vous attire dans son histoire, il vous met dans son script, c'est là qu'il y a quelque chose de grand dans ta vie. Vous comprenez? Et c'est ça que Simeon est en train de dire. Si vous voulez, si vous prenez des notes et que vous voulez des versets bibliques, vous pouvez voir que, dans un sens, toute la Bible est une histoire de la perte de la gloire de Dieu et de la retrouvaille. Vous vous rappelez que lorsque dans les livres de Samuel, la gloire de Dieu a quitté le temple, on a dit Ichabod. Ichabod, c'est la gloire est partie. Lorsque Dieu n'est plus là. On a un temple, mais il n'y a rien de glorieux, d'important, de lourd dans ce temple, dans cet ado. Dieu est parti. Et l'histoire, c'est que le Christ, lorsque Dieu revient dans son temple, lorsqu'il revient sur terre, lorsqu'il revient dans un corps humain, la gloire est revenue. Et tout à travers au travers de la Bible, Romains 5, 2, 2 Corinthiens 3, 18, Jean 17, 22 à 24, Romains 8, 30, et dans plein de versets, la Bible nous enseigne que le salut, c'est retrouver la gloire de Dieu. C'est retrouver la gloire de Dieu. Tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, Simeon nous dit que Dieu nous aime et il ne veut pas nous laisser périr dans cette insignifiance qui vient de notre péché. Il vient nous ramener dans son histoire et dans la gloire de cette histoire. Et nous devenons, si vous êtes chrétien, des gens glorieusement bénis, glorieusement sauvés. Ma gloire, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, c'est que je suis l'objet de miracles glorieux. Je suis l'objet du salut. Christ est venu, devenu homme, Dieu, pour me sauver, pour m'arracher, pour mourir pour moi. Le calvaire, le tombeau vide, le retour, tout cela, c'est ma gloire. Parce que c'est mon histoire. Il y a quelque chose de très glorieux dans ma vie. Pas ce que j'ai fait, mais ce qu'il a fait pour moi dans sa grâce. Et qui m'amène dans son éternité, dans un appel que nous ne pouvons pas discuter pour l'avenir et pour l'éternité. D'accord, il faut que j'arrête. Je vous dirai juste ceci, c'est que dans un article d'un journal français, pas chrétien, mais français, en août 2008, j'ai lu cette citation, « La consommation d'antidépresseurs en France est la plus élevée du monde. » Je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai. Je crois que le Japon et la France se rivalent d'année en année pour être au top. Mais c'est certainement le plus grand en Europe aujourd'hui. Mais peut-être en 2008, c'était le plus élevé du monde. En tout cas, ce triste record pousse une quinzaine de médecins français à lancer un cri d'alarme. La consommation de tranquillisants et d'antidépresseurs en France est 3 fois plus élevée que celle des autres pays de l'Union européenne. L'homme ne peut pas vivre sans gloire. Tu ne peux pas fonder une société sur la philosophie de Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Nous ne venons de nulle part, nous n'allons nulle part. La vie est absurde et sans signifiance, sans importance. Et tu ne peux pas vivre comme ça, comme humain. Tu vas pousser les gens à la dépression et à la perdition éternelle. Nous avons été faits pour Dieu et pour sa gloire. La dernière chose que Simeon dit, et là ça va être rapide, c'est simplement dans les versets 34 et 35, regardez. Simeon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est là pour la chute et pour le relèvement de beaucoup en Israël et ailleurs, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Voilà une autre prophétie qui s'est réalisée. Le Christ, Jésus, a provoqué une pagaille en Israël dans le premier siècle, n'est-ce pas? Qui a fini par le jugement de Dieu qui tombe sur le pays en 70 et Israël est dévasté. Et le Christ l'avait prédit, il a dit, parce que vous n'avez pas reconnu le jour de votre visitation, le jour où le Messie vous a visité. Donc, par ces mots, il a été destiné pour la chute et le relèvement de beaucoup. Simeon nous dit quelque chose d'important, parce que ça n'a pas changé. Pour chaque individu qui est ici, ce petit bébé, qui est le Seigneur de l'univers maintenant, à la droite de Dieu, Dieu homme. Alors, Jésus est le point de chute et de relèvement pour vous. Il va être l'un ou l'autre. C'est-à-dire, ce message ne peut pas être sans réponse. Ce que je vous dis aujourd'hui, vous ne pouvez pas simplement dire, bah, ça c'est bon pour vous, mais ça ne m'intéresse pas. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas ce choix. Il sera pour vous la raison de votre chute et votre perdition éternelle, parce que vous le refusez lorsqu'il est venu en grâce et amour envers vous, au prix de son sang, au prix de son sang, avec toutes les preuves des prophéties et tout ce que nous avons dit, voulant vous prendre dans ses bras, comme il dit à Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous prendre dans mes bras comme une poule prend ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Ou bien, il sera pour vous la raison de votre relèvement. Où que vous soyez maintenant, aussi bas dans le péché que vous soyez, aussi bas que vous l'ayez refusé 1000 fois, Jésus vous dit aujourd'hui encore, je vous relèverai. Est-ce que vous pensez que Saül était descendu bas? Ah oui, Saül avait entendu l'évangile plus que vous, je pense, même vous. Il avait vécu dans les Écritures toute sa vie. Il avait vu, il connaissait des gens qui avaient vu les miracles du Christ et tué les chrétiens. Et le Christ est venu vers lui et lui a dit, Saul, Saul, il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. Il est dur pour toi. Et il le relève. Il y a des commentateurs qui pensent que chute et relèvement, c'est quelque chose qui doit arriver à la même personne. C'est pas chute pour certains, relèvement pour d'autres, c'est chute et relèvement pour les mêmes personnes. Je ne pense pas, mais bibliquement c'est vrai, que afin que le Christ vous relève, vous devez descendre de votre orgueil et votre justice de soi, bien sûr, n'est-ce pas? Et c'est seulement quand nous voyons que j'ai été vraiment pas droit, j'ai été criminel envers Dieu. Il n'y a rien qui explique ma réponse à Jésus-Christ, à l'Évangile, à Dieu. Rien qui explique ça, sauf la méchanceté mystérieuse de mon cœur, mon égoïsme, que je ne veux pas que ce soit vrai parce que je veux faire ce que je veux. C'est aussi simple que ça, chers amis. C'est aussi simple que ça. Mais le Christ vous appelle, il envoie Simeon dans ce temple pour vous montrer que c'est notre salut. Il est une lumière pour nous tous, n'est-ce pas? Et il nous appelle comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Et j'étais un peu fasciné par le fait que dans ce chant que nous avons chanté, Minuit chrétien, on dit à un moment, peuple à genoux et courbez vos fronts et ensuite peuple debout. C'est un peu le texte, n'est-ce pas? Il y a le chute en bas et puis debout. La chute et le relèvement. Si c'est le sens de ce passage, en tout cas, ça doit être le sens pour chacun de nous, n'est-ce pas? On ne peut pas venir à Christ afin de s'avouer pécheur. Que la raison que je ne suis pas sauvé, c'est pas qu'il n'y a pas assez d'évidence, assez de preuves. Ce n'est pas que quelque chose dans mes circonstances, ce n'est pas que j'ai besoin de ceci ou cela. La raison que je ne suis pas sauvé, c'est moi-même. C'est moi-même. Ça, c'est le premier grand pas vers le salut. Sans ce pas, aucune possibilité de venir à Christ. Mais si vous pouvez faire ce pas aujourd'hui et dire que si vous n'êtes pas chrétien, c'est ma faute et Christ m'appelle maintenant et il me dit « Viens, venez tel que vous êtes. » Et la Bible dit que vous serez reçus. Si vous êtes chrétien déjà, il est temps, en grand temps, que nous apprenions à mieux nous émerveiller, n'est-ce pas, de tout ce que le Christ a fait pour nous. Nos yeux ont vu le salut de Dieu. Pas de la même manière que Simeon, mais nos yeux ont vu, n'est-ce pas, à travers le témoignage de Simeon, à travers les Écritures, nos yeux ont vu le salut de Dieu. Ça nous prépare. Nous aussi, nous pouvons partir en paix. Et entre-temps, nous aussi, nous devons attendre la consolation du peuple de Dieu. Pas dans le sens du pardon du péché que nous avons déjà, mais le sens que ce pardon devient une réalité complète dans un monde renouvelé. Et dans la présence immédiate, la gloire de Dieu, là. Ça viendra. Ça vient. C'est le plan de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons chanter le cantique de Simeon, parce qu'il y a un cantique de Simeon. C'est dans votre recueil, le numéro 92. Laisse-moi désormais.